Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et présence, information religieuse. Au programme, Amour bâtarde. La fermeture du chemin Roxham. Et existe-t-il un plan secret pour sortir François? Bonne écoute.
Amour bâtarde. Un texte de Valérie Lefebvre-Fauché, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Mais de nos jours, il est difficile de parler d'amour. Svetlana Alexeïevitch, acceptant le prix Nobel de littérature. J'aime Liberté. Cet enchevêtrement des savoirs et des voix, ces gens qui prennent le risque d'écrire pour que leurs pensées avancent dans l'inconnu, des écrivains et écrivaines attirés par la liberté. J'aime aussi toutes les époques de cette revue, même celles qui ne me ressemblent pas. Je pense depuis mon arrivée à François Ricard, mon professeur, qui a un jour été assis à cette place et qui n'est plus là pour m'accueillir de son sourire moqueur. Il ne l'aurait pas fait de toute manière, je ne suis pas la relève qu'il aurait souhaité. Ricard ne voyait pas la littérature comme moi et tout semble nous opposer politiquement. Pourtant, il m'a appris à lire des essais. Je suis là pour prendre le relais et je le salue. Ce qu'il m'a donné, c'est une forme de liberté. J'écris sans maître et il y a longtemps, que je n'ai plus à être bon élève. En héritière pirate, je prends tous les récits, pas seulement ceux qui gagnent, pas seulement ceux qui s'appellent littéraires, et pas seulement de la façon qu'on me les a enseignés. Je veux pouvoir dialoguer avec le monde, notamment avec ces écrivains et écrivaines qui ont pensé depuis les pages de cette revue. Cette littérature n'a pas de propriétaire. Entre dans la littérature québécoise qui veut. D'ailleurs, si vous êtes abonné à la revue, vous avez maintenant accès à ces 60 ans d'archives sur notre site web. J'aimerais qu'ici la littérature abandonne son critère de grandeur et ses tests d'admission. Que ce soit vif, comme nos raisons de pleurer ou de nous lever la nuit. Venir librement à des textes, s'intéresser à des paroles qui cherchent, à des voix différentes, même si c'est pour les critiquer, me semble un geste d'amour. La littérature est abondance. Elle est construite par des milliers d'élans du cœur et de contournements de portes. N'en déplaise à ceux qui se croient gardiens, héritiers légitimes et évaluateurs de la grande culture assaillie par les barbares. Personne ne peut vous dire que vous n'y avez pas votre place, que ce n'est pas chez vous. Lire nous rappelle que nous ne sommes pas seulement liés par des pertes, que nous voulons encore de cette société, de cette humanité, que nous sommes ensemble, bien qu'infidèles et remixés, dans une volonté de construire des ponts entre les générations et pour que les prochaines habitent encore le monde magnifique. J'ai voulu commencer en disant « Je suis venu ici par amour, parce que ça me semble juste, raisonnable même. » Et tout de suite, j'ai le réflexe de préciser que c'est une chance. Mais rien pourtant ne devrait être plus facile et plus normal que de prendre comme boussole nos élans d'amour. Elle indiquerait toujours l'incalculable et le prioritaire. Nous serions toujours aussi révoltés, mais nous saurions peut-être mieux par où bouger. On a souvent un peu peur de parler d'amour. On n'a jamais vraiment su comment faire. Comme si ça ne pouvait être que fleur bleue et moralisateur, comme si cela allait forcément nous affaiblir. Avec les catastrophes, les deuils, on s'habitue à plus de discours autoritaires, de calculs cruels qui, sous prétexte de responsabilité, négocient la haine, sélectionnent qui mérite d'être sauvé ou pas. Parler avec amour suscite encore plus de suspicion. Il faut dire qu'elle est bien radicale, cette chose que personne ne peut maîtriser et qui nous rappelle constamment vers où il faut aller pour que la vie continue. Il y a un lien entre l'amour et la liberté. Si on le contraint, il s'arrête. L'amour ne ferme pas de porte et n'a rien à voir avec l'adhésion. C'est un lien qu'on saisit pour mieux sauter, un lien qui bouge et ne meurt pas au rythme des gens. Vous pouvez être rejeté, vous pouvez perdre quelqu'un, votre amour continue d'aller où il veut. Ce n'est pas une absence de limites, mais notre participation à ce qui va au-delà de nos limites. Pas question ici de se flatter, de se rassurer. L'amour que je cherche, c'est le monde hérissé, notre moyen de défense. Dans ses pages, Suzanne Robert disait que cette revue force à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire écrire, pour survivre. Quand j'ai du mal à dormir, parce que les incendies ne s'éteignent pas, je vais vers ceux et celles qui ne se taisent pas quand les mots semblent se vider, qui croient qu'avec la discussion, on peut encore se rencontrer et inventer. Si je me retrouve ici, c'est parce que j'aime Liberté, cette revue qui doit sans doute une part de sa longévité à son si beau nom, un nom qui nous remet en mouvement. C'était « Amour bâtarde », un texte de Valérie Lefebvre-Fauché, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. La fermeture du chemin Roxham. Un texte du Centre Justice et Foi Montréal, paru le 4 avril 2023 dans Présence, Information religieuse. En ce 4 avril, Journée nationale des droits des réfugiés, le Centre Justice et Foi tient à ajouter sa voix aux nombreux groupes qui ont exprimé leurs préoccupations à propos de la fermeture du chemin Roxham et de l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs, ETPS, avec les États-Unis, des mesures entrées en vigueur le 25 mars dernier, quelques heures à peine après avoir été annoncées par le gouvernement fédéral. Cette nouvelle application de l'entente entre les points d'entrée officiels au Canada ne mettra pas fin aux traversées irrégulières de la frontière canado-américaine. Elle rendra seulement ces dernières encore plus irrégulières et dangereuses, en forçant les personnes en quête de protection à emprunter des chemins plus risqués pour franchir la frontière au péril de leur vie. De plus, l'ajout d'un délai de 14 jours avant de pouvoir déposer une demande d'asile confine les personnes à une clandestinité qui les rend encore plus vulnérables à l'exploitation de toutes sortes, y compris celle de passeurs ou d'employeurs peu scrupuleux. Ce nouveau protocole fait surtout en sorte que les personnes demandeuses d'asile seront davantage refoulées aux États-Unis, où elles risquent d'être détenues arbitrairement ou d'être déportées vers un pays qu'elles ont quitté pour fuir la persécution ou la mort, souvent après un long et périlleux voyage. Or, une abondance de preuves, présentement évaluées par la Cour suprême du Canada, qui doit juger de la constitutionnalité de l'ETPS, démontre que les États-Unis ne sont pas forcément un pays sûr pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Il est donc aberrant que le gouvernement canadien procède à son élargissement plutôt qu'à son abolition. Mais il est encore plus préoccupant que le gouvernement adopte de telles modifications à la dite entente dans le plus grand secret, sans consultation publique et sans même l'aval du Parlement. Une telle précipitation met non seulement les personnes demandeuses d'asile à risque, elle constitue un net recul de la démocratie. Elle traduit une dérive vers une gestion répressive de la frontière. Plutôt que d'accroître les ressources vouées à l'accueil, on cède à la pression des discours démagogiques et déshumanisants qui réduisent les demandeurs et demandeuses d'asile à une dépense, lorsqu'ils ne sont pas carrément dépeints comme une nuisance ou une menace. Démocratiser la frontière. Nous croyons, au contraire, qu'il est urgent de réfléchir collectivement à l'enjeu de plus en plus central du passage des frontières dans une perspective démocratique. Loin d'être seulement la porte d'entrée de nos États, la frontière est le reflet de notre manière de concevoir les pourtours de la communauté politique, de qui est inclus, de qui est exclu et sur quelle base. Le déploiement de mesures exceptionnelles pour accélérer l'installation au pays de plus de 175 000 réfugiés ukrainiens depuis 2022 est révélateur à cet égard. S'il faut saluer la célérité canadienne dans sa réponse à cette grave crise humanitaire, elle doit être mise en parallèle avec la lenteur, sinon la résistance, à accueillir les ressortissants non-européens et non-blancs en provenance d'Haïti, du Venezuela ou de l'Amérique centrale notamment, et à traiter leur demande d'asile une fois ces personnes arrivées au Canada. Cette forme d'inclusion différenciée cache mal la géopolitique impériale et néocoloniale dans laquelle se projette le Canada et qui doit pouvoir être remise en question. Un véritable régime démocratique ne peut se soustraire au fait que les frontières sont le lieu de cristallisation d'inégalités structurelles et raciales importantes. En ce sens, la question migratoire contemporaine recèle un potentiel politique transformateur et résolument démocratique. Car, à ses frontières, la démocratie se heurte à un paradoxe. L'égalité et la liberté individuelle de mouvement s'y confrontent à la logique étatique qui se juge souveraine dans ses politiques d'admission. Sans un constant travail de discussion critique des exclusions que produisent à leurs frontières nos sociétés dites démocratiques, c'est la démocratie elle-même qui menace constamment de s'écrouler. En somme, la démocratisation des frontières à laquelle nous appelons nécessite surtout de donner une portée instituante et effective à ce que la philosophe politique Hannah Arendt appelait le droit d'avoir des droits, et qui s'appuie sur l'idée que l'être humain existe avant l'État. L'humain est là d'abord. La question de ses droits se pose en soi. C'était La fermeture du chemin Roxham, un texte du Centre Justice et Foi Montréal, paru le 4 avril 2023 dans Présence, Information religieuse.
Existe-t-il un plan secret pour sortir François? Un texte de Raphaël Sbinden, paru le 16 janvier 2023 dans Présence Information religieuse. Dans le sillage de la mort de Benoît XVI, le 31 décembre 2022, des vaticanistes font état d'une montée en puissance des intrigues de palais au Vatican. Ils évoquent notamment l'existence d'une fronde de cardinaux conservateurs pour amener le pape François à la renonciation. François doit être stressé jusqu'à ce qu'il démissionne de son poste. Tel est, selon le vaticaniste Gianluigi Nuzzi, l'objectif d'un groupe de personnalités haut placées au sein de la Curie romaine. Le spécialiste du Vatican affirme le 8 janvier dans le journal italien La Stampa que ces informations viennent d'un cardinal italien souhaitant rester anonyme. Rumeurs fondées ou accès de sensationnalisme journalistique? La question peut se poser, connaissant la carrière de Gianluigi Nuzzi, qui s'est principalement fait connaître en révélant dans plusieurs livres des scandales financiers du Vatican, Vatileaks. Pourtant, la plausibilité d'une démarche d'opposition coordonnée au pontificat de François a été mise en avant par d'autres vaticanistes ces derniers jours. Ganswein, le coup de semonce. L'idée s'est notamment cristallisée autour de la sortie du livre de l'ancien secrétaire personnel de Benoît XVI, Monseigneur Georges Ganswein, intitulé « Rien d'autre que la vérité ». L'Allemand y raconte les circonstances de la vie du pontife bavarois au monastère Mater Ecclesiae, au cœur du Vatican, suite à sa renonciation en 2013. Si aucune révélation fracassante n'est faite dans l'ouvrage, des observateurs y ont ressenti la nette volonté du secrétaire de Benoît XVI de mettre en exergue un climat de tension entre ce dernier et le pontife argentin, au-delà des relations personnelles très chaleureuses. Le journaliste italien Massimo Franco évoque, dans le quotidien Corriere della Sera, le 8 janvier, les surprenantes attaques de Monseigneur Ganswein qui ont été considérées comme le début d'une phase de confrontation ouverte. Le vaticaniste voit dans les déclarations du prélat allemand le ressentiment de quelqu'un qui s'est senti humilié et qui a été contraint de garder le silence pendant longtemps entre les murs du monastère pour ne pas déplaire à Benoît. Manœuvre dans l'ombre et à découvert. La mort de Joseph Ratzinger change indubitablement la donne au Vatican. Elle rend notamment plus plausible une renonciation de François, une perspective inenvisageable dès lors qu'elle aurait impliqué la cohabitation de trois papes dans l'Église catholique. Pour Nick Squires, correspondant à Rome du journal britannique The Telegraph, la disparition du pape émérite a ouvert la voie aux conservateurs qui s'opposent à ces positions du pape François, note de la rédaction, sur des questions telles que l'homosexualité, l'avortement, la communion pour les divorcés remariés, le célibat des prêtres. Le Britannique estime, à l'instar de Gianluigi Nuzzi, que les conservateurs du Vatican mènent un plan secret pour mettre le pape François sous une telle pression qu'il démissionnera. Une campagne qui reposerait sur l'affaiblissement progressif du Saint-Père ainsi que sur l'opposition à ses choix doctrinaux, ce qui créera un grand mécontentement qui pourra être utilisé contre lui. Selon le cardinal anonyme cité par Gianluigi Nuzzi, certains de ses ennemis agiront dans l'ombre, tandis que d'autres afficheront plus ouvertement leurs critiques. Les comploteurs nommés. Monseigneur Ganswein aurait ainsi été la première cheville ouvrière de l'offensive. Une seconde salve se préparerait avec la sortie annoncée d'un autre livre, cette fois du cardinal Gerhard Ludwig Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, lui aussi écarté par le pape François, intitulé « En toute bonne foi ». L'ouvrage attaquerait en profondeur le pontificat franciscain. Outre ces deux figures allemandes, les vaticanistes n'hésitent pas à nommer les autres comploteurs présumés, le cardinal américain Raymond Burke, ainsi que son compatriote archevêque Timothy Broglio. Ce dernier vient d'être nommé à la tête de la Conférence des évêques des États-Unis, USCCB. Le cardinal guinéen Robert Sara, ancien président du Dicaster pour le culte divin et les sacrements, est aussi cité. Certains voient aussi dans le cardinal Joseph Zen de Hong Kong, un des opposants les plus farouches au pape François. Mais le cardinal nonagénaire a rencontré le pontife après les obsèques de Benoît XVI. Il est ressorti de Sainte-Marthe en évoquant une rencontre très chaleureuse. François, pas près de la sortie. Mais quelles sont les chances de réussite pour les frondeurs? Le fait est que le pape François commence à être âgé, 86 ans, et ne bénéficie pas d'une santé très solide. Malgré une récente amélioration, il reste limité dans sa mobilité. Si dans un avenir proche, il ne pouvait soudain plus assumer certains de ses engagements, il n'est pas impensable qu'il pense à jeter l'éponge. Il a pourtant déjà fait savoir que seule une incapacité mentale pourrait l'amener à renoncer au trône de Pierre. Le pape François est connu comme un fort caractère, difficilement impressionnable et influençable. Aucun indice n'a émergé d'un quelconque affaiblissement de l'Argentin au niveau cognitif ou émotionnel. Il est de plus certain qu'il aura à cœur de mener jusqu'à son terme le synode sur la synodalité qu'il a lui-même lancé et qui devrait se prolonger au moins jusqu'en 2024. François a même récemment donné quelques signes d'autorité et de vitalité, notamment en réformant par décret le diocèse de Rome et en s'accordant ainsi, en tant qu'évêque de Rome, une plus grande participation directe. Il a également mis en place deux nouveaux organes de surveillance et s'apprête à accomplir des voyages éprouvants au Congo, RDC, et au Soudan du Sud. Effet boomerang? Le réel pouvoir de nuisance des comploteurs pose question. Certes, l'Église américaine, qui abrite les principaux bastions anti-François, est puissante et a été de tout temps l'un des plus gros contributeurs financiers du Vatican. Dans le même temps, les prélats états-uniens ne sont actuellement qu'un petit groupe sans grande influence au sein de la curie. Et le pape François a su, depuis 10 ans, s'entourer d'une garde rapprochée en laquelle il peut avoir confiance. Pour le journaliste Paolo Rodari, qui a présenté son analyse dans le média public suisse-italien RSI, les propos de Mgr Ganswein pourrait constituer un boomerang pour l'aile conservatrice la plus hostile à François. Des membres de la curie ont été forcés de prendre position en désavouant l'ancien secrétaire du pape allemand. Parmi eux, Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie, qui a relevé à la télévision italienne « Il y a manifestement des blessures et des douleurs, mais il serait malgré tout préférable de se taire et de chercher le vrai message de Benoît XVI. » Le cardinal Gianfranco Ravasi, ancien président du Conseil pontifical pour la culture, a lui aussi critiqué le lancement de la polémique aussitôt après la mort du pontife allemand. Citant Umberto Eco, il a assuré que « Dieu ne se révèle que dans le silence », Dieu n'est jamais dans les médias, jamais à la une des journaux. Recherche d'alliance. Les vaticanistes relèvent que, même si les anti-François arrivaient à obtenir une renonciation, cela ne voudrait pas dire pour autant qu'ils arriveraient à placer un homme à eux sur le trône de Pierre. Massimo Franco voit surtout dans les manœuvres actuelles des conservateurs la conscience qu'ils n'ont pas une candidature unique et forte à opposer aux progressistes. Le fait est que depuis le début de son pontificat jusqu'en août dernier, Jorge Bergoglio a nommé 113 cardinaux, dont 83 sont électeurs, sur un total de 132. Paolo Rodari estime probable que ces cardinaux se solidarisent encore davantage pour marginaliser les opposants à François. Les cardinaux les plus conservateurs sont désormais peu nombreux, note le vaticaniste italien. Ils ont peu de chances de l'emporter dans un futur conclave. Les conservateurs cherchent donc à renforcer leur position en nouant de nouvelles alliances, notamment en passant au crible, selon Massimo Franco, le Collège des cardinaux à la recherche de mécontents de François. Malgré leur faiblesse actuelle, les frondeurs, persuadés que l'avenir de l'Église est en jeu, ne vont ainsi pas baisser la garde et continueront certainement leur travail de sape. C'était « Existe-t-il un plan secret pour sortir François ?» un texte de Raphaël Zbinden, paru le 16 janvier 2023 dans « Présence information religieuse ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.